France Culture.
Bonjour le Book Club et bonjour Percival Everett. Alors merci pour cette expérience qu'a été la lecture de James. J'ai adoré cette réécriture de l'histoire américaine en passant par la comédie, par la tragédie, par le ridicule, par la poésie. J'ai adoré descendre moi aussi le cours du Mississippi pour essayer de trouver un peu plus de liberté.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On gagne toujours à donner aux Blancs ce qu'ils veulent. C'est James qui le dit, un esclave fuyant sur le fleuve Mississippi, sa condition d'homme acheté, vendu, exploité, dans les États-Unis de l'avant-garde de sécession, milieu du 19e siècle donc. Dans un roman qui dialogue avec le roman Les Aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, Percival Everett imagine plusieurs profonds renversements du monde, à commencer par celui du langage et de la narration. Quand ils ne sont pas devant les Blancs, James et ses semblables cessent d'abaisser leur langue, laissent leur savoir et leur érudition railler ce qu'ils perçoivent chez leurs oppresseurs racistes comme des faiblesses. Le duo qu'ils forment avec Huck, ce petit garçon, vit bien des aventures avant que la liberté ne soit arrachée dans un élan d'autodétermination. Percival Everett a obtenu le National Book Award et le prix Pulitzer pour ce texte qui paraît ces jours-ci dans une traduction française. Il passe en France, il est notre invité. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Percival Everett.
Bonjour.
Merci de ce bonjour en français. James à Paris aux éditions de l'Olivier dans la traduction de Anne-Laure Tissu. Bienvenue à vous dans le Book Club. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'une vingtaine de romans. Vous avez publié de la poésie, des nouvelles, des essais. On peut signaler aussi la parution en format poche de votre roman Effacement. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et bonjour Marguerite Capelle.
Bonjour.
C'est vous qui assurez aujourd'hui l'interprétariat. Merci beaucoup, on est ravis de vous retrouver au micro du Book Club. Alors ici, Percival Everett, tout commence toujours par ce qu'on appelle un questionnaire lecture. On se dit que c'est une bonne idée de faire connaissance avec nos invités en se demandant quel livre ils ou elles ont rencontré sur leur parcours. Il se trouve que la lecture et ce qu'elle confère aux êtres comme puissance, comme levier d'émancipation, est au cœur de ce roman James. On en parlera tout à l'heure. L'objet livre est presque une sorte de totem pour cette figure de James. C'est au centre aussi de ce qu'il veut transmettre aux siens. Et je vais commencer par lire un petit passage dans la traduction française. On entend donc ce narrateur, esclave, dire « Je lisais ». Je ne me suis jamais sentie plus exposée ou vulnérable qu'avec un livre ouvert en plein jour. Et si j'avais été repérée par l'un des contremaîtres des plantations locales, ou par un esclave à qui ce spectacle aurait pu faire peur, ou un esclave simplement désireux de s'attirer les bonnes grâces de son maître, certains parmi les esclaves prétendaient qu'il existait une différence entre bon maître et cruel. La plupart d'entre nous considérions qu'il s'agissait d'une distinction sans différence. Il poursuit ensuite James en disant « Je lus sans relâche, mais me rendis compte que c'était écrire dont j'avais besoin. » La question de la lecture et du livre est fondamentale pour James. Est-ce que ça nous renseigne sur la place qu'occupent la lecture et le livre dans votre vie, Percival Everett ?
Bien oui, ça, c'est vrai.
Reading is the most subversive thing we can do.
La lecture, c'est ce qu'on peut faire de plus subversif.
It's where we learn to be critical.
C'est là qu'on apprend l'esprit critique. C'est là qu'on apprend à penser.
And you know, writing is not even the second most subversive thing we can do.
L'écrire n'est même pas nécessairement la deuxième chose la plus subversive d'ailleurs. La deuxième.
Subversive thing is belonging to a book club.
Ce serait plutôt d'appartenir à un book club.
Absolument, parce que en plus de ce qu'il anime, ce James, dans son rapport au livre, il y a ce qu'il anime dans la puissance qu'il a, dans le désir qu'il a de partager. Partager le livre, partager le rapport à la langue, partager la subversion justement que propose ou que provoque la lecture. Est-ce que vous vous souvenez, vous, Percival Everett, du moment où vous avez réalisé que c'était subversif, de lire des livres ?
Non, je ne crois pas me souvenir exactement d'un moment comme celui-là. C'est probablement quelque chose qui est venu avec le temps. Le premier véritable roman que j'ai lu, c'était un roman pour adultes. Je devais avoir 8 ou 9 ans.
Of human bondage by Somerset
Maugham. Et c'était La servitude humaine de Somerset Maugham. Et je me suis dit que je ne devrais pas lire ça. Je l'avais emprunté à la bibliothèque de mon grand-père.
And I read it, you know, in private.
Et je l'ai lu en secret. J'ai emmené le livre dans ma chambre. C'est un roman qui me paraissait très coquin. Il y a une prostituée, et je ne savais pas ce que c'était qu'une prostituée. Alors j'ai cherché dans le dictionnaire. Et donc c'est vraiment cette loupe qu'est le dictionnaire qui permet de comprendre. J'ai lu la définition, mais je ne savais toujours pas ce qu'était une prostituée.
But the whole experience of reading it,
mais toute cette expérience de lecture,
and thinking I shouldn't
de ce livre, et de me rendre compte que je n'aurais pas dû lire ce livre, c'était quelque chose d'excitant.
Et
je crois que c'est la première fois où je suis vraiment tombée amoureux de la langue d'un roman. Même si ça n'a rien à voir avec la mienne, avec ma façon de parler.
Vous mentionnez la bibliothèque de votre grand-père. Est-ce que vous avez grandi dans un endroit où il y avait des livres accessibles ?
I did. My father was a reader.
Mon père lisait, mon grand-père aussi.
And the beauty of it was that I had access to any book that was on the
shelf. Là-dedans, c'est que j'avais accès à tous les livres qui étaient sur les rayonnages.
I didn't have children's books.
Je n'avais pas de livres pour enfants.
And so my interest in language developed around books that
were
pushing me
la langue s'est développé avec des livres qui me poussaient à essayer de comprendre des choses que je n'étais pas encore vraiment prêt à comprendre.
Est-ce que c'était des objets de discussion, de conversation avec votre père et votre grand-père, les livres que vous lisiez, Percival Everett? Est-ce que vous en parliez ou est-ce que ça demeurait votre territoire intime, pourquoi pas interdit et pourquoi pas excitant?
Well, both.
Les deux.
We discuss books and,
on parlait de livres, et parfois mon père me soumettait un livre, me montrait un livre à lire, mais ce qu'il y a de beau dans la lecture, c'est que ce qu'il y a au fond dans sa nature subversive, c'est justement que c'est une activité intime qu'on fait en privé. Même quand quelqu'un lit par-dessus votre épaule, il ne sait pas ce qui se passe dans votre tête.
Vous avez poursuivi ce rapport à la lecture entre secret et plaisir de la transmission. C'est comme ça que ça se passe pour vous encore aujourd'hui ?
Je pense que je suis peut-être encore plus secret aujourd'hui que je ne l'étais enfant.
I don't discuss my work.
Je ne parle pas de mon travail.
But as a professor of,
mais
of,
en tant
of,
que professeur de littérature,
and theory,
et de théorie littéraire, je suis tout le temps en train de parler à mes étudiants de livres et de ce que leur travail à eux signifie.
Est-ce que vous pourriez dire, puisque cette activité subversive, elle aussi manifestement est très attaquée en ce moment aux États-Unis, est-ce que vous pourriez dire ce qu'il y a d'important à être plusieurs humains qui se réunissent pour parler des textes des autres ? Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que c'est si important que ça crée des attaques contre cette activité étrange ?
Il y a une raison pour laquelle les fascistes brûlent les livres. Ils ont peur des livres. Ils ont peur des livres parce que quand on lit, on réfléchit. Et quand les gens parlent de livres, c'est un exercice encore plus critique.
Et donc, le status quo,
l'état des faits est questionné, est remis en cause.
Ce
qui est ironique, c'est que les gens qui cherchent à interdire les livres souvent ne lisent pas eux-mêmes.
Alors, qu'est-ce qu'ils s'imaginent qu'il y a dans les livres ? Je ne sais pas ce qui se passe dans ces cerveaux-là. Mais en tout cas, peu importe ce qui se passe, pour eux, dans ces livres, ça leur fait peur. Il y a quelque chose dans le roman de James qui non seulement s'attache à ce que c'est que la lecture, s'attache à ce que c'est que penser. Il y a une quête de sens profonde chez cette figure d'esclave, mais aussi à ce que c'est que parler et quels mots on utilise. Vous dites, vous reliez immédiatement Percival Everett, l'origine de votre rapport à la lecture avec la consultation d'un dictionnaire et votre intérêt pour les mots. Si vous deviez essayer de définir l'aventure que c'est votre relation aux mots, ces espèces de petits blocs étranges de lettres, comment vous pourriez nous en parler ?
À la base de mon travail, la raison même pour laquelle j'écris, il y a cette fascination pour la façon dont le langage crée du sens. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que j'utilise ces signes et quelqu'un peut tomber dessus et comprendre des idées? Dans le même temps, tout ça n'est pas possible sans qu'il y ait un public, quelqu'un pour recevoir. Je crois peut-être vouloir dire quelque chose. Un lecteur peut penser que je dis quelque chose, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte en réalité, c'est ce que le lecteur en fait. C'est là que le sens se construit. C'est là que la magie opère. Il n'y a pas de littérature sans lecteur.
Donc si je vous comprends bien, ce qui vous intéresse dans la relation que l'on a aux mots, c'est la relation qu'elle permet entre les sujets, entre les humains. C'est cet endroit-là qui vous intéresse dans les mots. Mais
même à un niveau beaucoup plus rudimentaire, je suis fasciné par la manière dont les phonèmes, dont les éléments sonores et les signes peuvent parvenir à exprimer un sens. Et un sens qui peut être extrêmement complexe. Quelqu'un peut crier au feu et on comprend qu'il y a danger. Mais on peut aussi parler du feu en tant que matière ou pas. On peut débattre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement excitant.
Comment un homme comme vous, alors, Percival Everett, réagit quand un gouvernement publie une liste de mots interdits, va jusqu'à porter son action à rayer des mots dans le discours, à interdire qu'on prononce certains mots, que certaines thèses à l'université ne portent pas sur certains mots? Comment avez-vous réagi, Percival Everett, vous et éventuellement la communauté universitaire d'élèves et de professeurs qui vous entourent?
C'est une attaque contre les intellectuels, c'est une attaque contre l'éducation. Mais quand on comprend quel animal fait ça, vous savez, si je me lance dans la nature et que je tombe sur un lion, je sais ce que me fera le lion si je m'approche trop près. De la même manière, dans notre culture, je vois la menace et je sais très bien où ils vont et ce qu'ils vont essayer de faire. J'adorerais vivre dans une culture où il y ait un débat, un discours et pas simplement une polarisation des idées. Mais c'est à nous de connaître l'existence du danger, de le reconnaître et de le combattre.
Et alors, quand vous répondez, par exemple, qu'une des choses les plus subversives après lire, c'est parler de ces lectures, une des réponses à ce genre d'attaque du gouvernement actuel américain, c'est continuer de lire, continuer de se réunir pour lire et continuer de parler de ces lectures, Percival Everett? Vous y croyez, je veux dire, concrètement?
J'adorerais vivre, en tout cas, dans une société où c'est encouragé.
J'adorerais
vivre dans une culture qui valorise l'éducation.
And when I say education, I don't mean mere training for a job.
Quand je ne parle pas juste de formation pour trouver un emploi.
Supporting and nurturing.
Je parle d'encourager, de nourrir le désir de comprendre le monde, de mieux le comprendre, de mieux se comprendre les uns les autres. L'apprentissage pour le plaisir d'apprendre.
Those are the people I would like to be around.
C'est ce genre de personnes que j'aime fréquenter, c'est ce genre de milieu.
Je ne sais pas quand est-ce que vous avez exactement écrit James. Nous le recevons aujourd'hui en France, où on peut considérer que c'est presque un pamphlet pour ce que vous venez de dire à l'instant, Percival Everett, c'est-à-dire mettre le sens, un langage incarné, des mots qui renvoient à quelque chose, des mots qui relient les humains au cœur de l'expérience humaine, au cœur de ce que pourrait être une existence égalitaire entre les êtres. Est-ce que quand vous l'écrivez, vous avez déjà la sensation d'écrire contre quelque chose, au-delà de la dimension historique sur laquelle on va évidemment revenir, mais contre quelque chose qui est ambiant dans le monde qui vous entoure aux États-Unis et plus largement dans le monde contemporain?
Oui, je suppose que même de façon intuitive, je comprenais ce qui nous attendait. Mais même si la situation est terrible aujourd'hui, ça n'a rien de nouveau.
This has happened before.
Ça s'est déjà produit.
It will probably happen again.
Ça se reproduira, Nous sortons d'une période de peut-être 50 ans où nous avons progressé dans une direction positive, mais sans résoudre aucun des problèmes. Nous avons simplement amélioré la situation. Et là, nous sommes en train de revenir en arrière. C'est peut-être la nature même de l'évolution humaine.
No less alarming.
N'empêche que c'est tout à fait inquiétant.
No less distasteful.
Il n'empêche que c'est tout à fait dégoûtant.
It's up to us to remember that we've been resilient
c'est
before.
À nous de nous rappeler que nous avons déjà fait preuve de résilience et que nous en sommes capables à nouveau.
Dans les rêves de James, ce personnage qui est au cœur de votre roman Percival Ivrette, il peut discuter, il peut s'entretenir avec des philosophes des Lumières, avec des grands auteurs, parler notamment d'une perspective abolitionniste, de la Constitution des États-Unis. Bref, il dialogue concrètement avec des personnes qu'il a lues. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous avez des auteurs ou des autrices avec qui vous pourriez dire que votre vie est une conversation avec eux ?
I suppose that's necessarily true.
J'imagine que c'est forcément le cas, parce que c'est comme ça qu'on interroge les idées. Je n'irai pas jusqu'à dire que je pratique une conversation schizophrénique avec des auteurs ou des autrices, mais j'imagine ce qu'ils pensent, leurs idées, et je me demande ce que ces idées peuvent donner, où elles viennent.
More with visual artists than anyone else.
Et je dialogue sans doute davantage avec des artistes visuels qu'avec d'autres.
Par exemple, si vous pouviez convoquer à votre table ou dans votre atelier de peinture des artistes avec qui avoir une bonne, longue conversation de Percival Ivrette.
Well, at the root of my novel Erasure, for example, is a conversation between
mon roman Effacement, il y a une conversation entre de Kooning et Rauschenberg que j'imaginais.
Rauschenberg took a drawing that he asked Kooning to make.
Avait demandé à de Kooning de faire un dessin.
The drawing was created with grease pencil.
Un dessin qui a été fait au fusain, à l'encre.
And charcoal. And
et au crayon gras.
And then Rauschenberg
a passé des heures à effacer ce dessin, à le gommer.
Et dans
ma conversation imaginaire avec de Kooning,
says, where is my drawing?
Que l'on voit dans le roman Effacement, de Kooning demande says, où est passé mon dessin. Rauschenberg dit je l'ai vendu.
And he says, you sold my drawing. He says,
tu as vendu mon dessin.
Rauschenberg responds.
Rauschenberg répond.
I didn't sell your drawing.
Je n'ai pas vendu ton dessin. J'ai vendu mon effacement.
And so even as my trying to understand language.
Quand j'essaie de comprendre le langage, je le prends comme une question qui est où est le sens ? Où est-ce qu'il réside ? Est-ce que c'est vraiment ce qui existe au départ ? Ou est-ce que c'est dans l'effort, dans ce qu'on applique, en fait, à ce point de départ, que le sens se crée ? Rauschenberg donne un tout nouveau sens au dessin que lui a fourni de Kooning.
Dans un retournement dont vous faites tout à fait usage dans votre roman James, dont on va parler dans un instant, il paraît aux éditions de l'Olivier. On va en parler juste après cette reprise d'un grand classique. Je parle de Strange Fruit, ici chanté par Dominique Fitz-Aimé. Plainte et pamphlet contre les lynchages subis par les personnes noires aux États-Unis. Le fruit étrange dont il est question dans la chanson, interprétée d'abord par Billie Holiday en 1939, fait référence dans une métaphore glaciale et glaçante au corps mort suspendu aux arbres.
Southern trees bear strange fruit. Brown the leaves, blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant side.
the bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, so sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the cross to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun. For the sun to mount, for the trees to draw, the trees to draw. Strange and bigger.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Je m'appelle Jim. Je ne me suis pas encore choisi de nom. D'après la prédication religieuse de mes ravisseurs blancs, je suis victime de la malédiction de Cham. Les soi-disant maîtres blancs ne sont pas capables d'assumer leur cruauté et leur avidité et doivent se tourner vers le mensonge de ce frère dominicain pour y trouver une justification religieuse. Mais je refuse de me laisser définir par cette condition. Je refuse de me laisser noyer et de noyer mon esprit dans leur peur et l'indignation. Je m'indignerai par principe. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ces marques que je dépose sur cette page puissent avoir quelque sens que ce soit. Si elles peuvent avoir du sens, alors la vie peut avoir du sens et je peux avoir du sens. Ce sont les mots de James, les premiers que l'on lit de sa plume, né esclave, acheté, vendu, avant que d'avoir pu être bercé par sa propre mère, et dont vous écrivez, Percival Everett, la quête d'une liberté concrète, car libre, il l'est déjà dans son esprit, une quête absolument corrélée, on l'entend, à la quête de sens. James paraît ces jours-ci dans la traduction française de Anne-Laure Tissu aux éditions de L'Olivier. On continue d'en parler avec vous, Percival Everett. Vous êtes de passage en France. On se réjouit de vous avoir à notre table. On rencontre ce James alors qu'il s'apprête à être vendu par sa maîtresse Miss Watson. S'il est vendu, il est séparé de sa famille, femme et enfant, et c'est vraiment ce qu'il craint par-dessus tout. Alors il s'enfuit par le fleuve Mississippi avec l'idée qu'il reviendra les retrouver. Et dans sa fuite, il retrouve Huck, le petit garçon. Lui, Huck, il fuit son père violent, qui est prétendument revenu en ville. Ils iront ensuite d'aventure en aventure, souvent ensemble et parfois séparés, rencontrant des tas de personnages qui soulignent chacun à sa façon l'absurdité et la si grande violence du racisme et de l'esclavage. Alors je l'ai dit, c'est un roman que vous écrivez dans une sorte de dialogue avec le roman de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn. Peut-être à ce propos que vous interroge notre auditrice Margot.
Bonjour le Book Club et bonjour Percival Everett. Ce roman est court et il met en lumière vraiment une certaine profondeur réaliste, peut-être à côté de laquelle j'étais passée en lisant Mark Twain. Et je me suis demandé justement au fil de cette lecture s'il s'agissait d'une volonté initiale, c'est-à-dire d'une réécriture ou d'une adaptation, ou finalement peut-être James n'est-il pas une tentative d'aménagement d'un nouvel espace pour dire les choses tout en réalité, pour échapper aux stéréotypes, à la binarisation du monde, pour plus de liberté finalement de s'exprimer. Et si c'était un nouveau genre que cet espace réaménagé, alors quel nom pourrait-il porter? Voilà, merci de votre réponse.
Merci à vous, Margot, pour cette précise lecture et cette précise question. Percival Everett, Margot parle d'un aménagement, d'un nouvel espace pour s'exprimer. Est-ce que c'est une expression, peut-être, pour évoquer l'écriture de James qui vous intéresse?
That was a fantastic question.
Mais c'est une question fantastique.
Je n'avais pas l'intention d'écrire un roman correctif à l'œuvre de Mark Twain. Je n'essayais pas non plus de re-raconter, de réécrire les aventures de Huckleberry Finn.
Mais
je m'imagine en dialogue avec Twain dans ce roman. La mission que je me donne,
c'est de créer, non pas nécessairement
une capacité d'agir pour James, mais un moyen pour lui, justement, d'exprimer cette capacité d'agir.
When I come to Huck Finn, I realize that Twain's job was to write
a story
of a young adolescent boy. Certainly, Twain was ill-equipped to do that.
Et il n'avait pas les moyens de faire ça, il n'avait pas les compétences nécessaires. Il n'aurait pas pu écrire l'histoire d'un homme noir adulte confronté au racisme aux États-Unis. Et c'est pour ça que je m'en suis mêlé. Je n'aurais pas pu écrire une histoire d'adolescent blanc. En revanche, je peux écrire l'histoire d'un homme noir adulte en Amérique, ce que Jim.
Je ne crois pas que c'est ce que je fais. Je
fais quelque chose qui existe depuis longtemps.
Dans la littérature,
il y a toujours eu des réécritures. Mythes grecs, par exemple, d'histoires déjà racontées en long et en large.
C'est en réalité probable que ce roman
soit aussi d'ailleurs une réécriture de mythes grecs, exactement comme Ulysse. Qui est aussi en même temps une histoire de Télémaque.
Je m'arrête sur ce que vous dites, Percival Livrette. Je ne suis pas là pour créer une capacité d'agir à l'esclave James, mais pour lui donner la possibilité de l'exprimer. En effet, c'est vraiment ce que je disais dans l'introduction, c'est qu'il n'est pas question de lui donner qu'une liberté. Libre, il l'est. C'est juste la possibilité de dire cette liberté. Et je trouve que c'est une nuance importante, Percival Livrette. Pendant tout le texte, vous nous montrez combien, à l'abri des regards, et notamment à l'abri des regards des oppresseurs blancs, il est libre. Libre de penser, libre d'avoir un esprit critique, libre même de s'envisager comme n'importe quel humain. C'est juste qu'il n'a pas l'espace pour exprimer cette liberté. Est-ce que c'est juste?
Well, aside from the... The obvious physical constraints
en dehors des contraintes physiques évidentes de l'esclavage, dans son esprit, parce qu'il est cultivé, on peut dire effectivement qu'il est libre, mais il ne peut pas exprimer ses idées librement, sans qu'il y ait des conséquences.
And he's not free to participate.
Il n'est pas libre non plus de participer en public à n'importe quel type de discours qui puisse montrer, trahir son éducation.
Donc c'est une liberté secrète, c'est une liberté prisonnière.
Yes, and for the very scary reason that expression of it creates danger for him.
Et en fait, la raison, c'est que s'il exprime cette liberté, ça crée vraiment du danger pour lui.
Et vous dites, évidemment, en dehors des contraintes physiques qui pèsent sur la vie de James et de tous ses semblables, on sent bien que dans ce roman-là, bien sûr, il y a toute l'aventure liée au langage, toute l'aventure liée au retournement des narrations, à la passion qu'a James pour les mots, pour le langage, pour la lecture. Mais vous prenez soin de décrire les violences corporelles précisément, Percival Livrette, est-ce que vous vous êtes documenté? Est-ce que vous avez fait un travail en plus de cette lecture très assidue que vous faites de Twain? Est-ce que vous avez été lire quel texte avant ou pendant l'écriture de James?
Well, I did. I read many.
J'ai lu beaucoup de textes sur l'institution de l'esclavage.
Mais
la cruauté est quelque chose que j'ai l'impression, au contraire, d'avoir presque minimisé dans le roman. Depuis
le
début du commerce transatlantique,
dont
peut-être 25% des esclaves qui faisaient l'objet de traite négrière arrivaient vivants, d'ailleurs, il y avait de la violence dès le départ. Il y avait tellement de violence, même, dirais-je, qu'elle finissait par perdre son sens. La violence physique, bien sûr, n'est rien à côté de la violence culturelle, psychologique qui est infligée aussi à ces personnes.
Et la violence culturelle et psychologique que vous évoquez, Percival Ivrette, elle arrive par la façon dont votre texte et les aventures que vont vivre Jim, James et Huck qui sont comme des miroirs tendus à l'absurdité et à la bêtise profonde qu'est le racisme, et comme si vous passiez votre temps à retourner ce miroir. Je voudrais qu'on écoute Colson Whitehead dans une archive de 2017 au micro de RFI qui parle de son roman Underground Railroads.
Yeah, in terms of writing, when I actually started,
c'était possible d'écrire de 10h du matin à 3h30 de l'après-midi et puis m'arrêter. Je ne passais pas la nuit à y penser. Le plus dur pour moi, ça a été de faire la recherche. Et évidemment, j'ai étudié à l'université tout ce qui était l'esclavage et j'avais vu Roots, Racine, quand j'étais petit. Mais en tant qu'adulte, revivre ça a été quelque chose de très, très difficile. Imaginez que mes enfants auraient pu être vendus, auraient pu être agressés. Moi, ma femme, nous aurions pu être brutalisés et vendus. Alors, penser que moi, j'étais un descendant de personnes qui ont survécu à cela, c'est un miracle que je sois là. Les gens de la génération de mes ancêtres ont été détruits et tué. Donc le plus dur, c'était de réaliser ça. Et après, il fallait le mettre sur une page. Et après, la violence et tout cela, c'est ce que j'ai étudié en recherche et que j'ai vu dans des textes écrits à l'époque. Les gens qui ont survécu des décennies plus tard ont décrit ce qui leur est arrivé d'une manière absolument, d'une voix absolument simple. C'était leur expérience de tous les jours. Ils n'avaient pas besoin de la dramatiser. La violence parlait d'elle-même.
Colson Whitehead, qui, entre autres choses, évoque les écrits de personnes ayant survécu. Il se trouve que vous faites de l'écriture de cet esclave James Percival Ivrette un des chemins vers l'autodétermination, vers la liberté. Est-ce que vous-même, vous vous êtes intéressé à ces écrits? Et pourquoi est-ce que c'est presque nodal? Pourquoi est-ce que c'est si important dans la quête de ce personnage? Le fait d'écrire son nom, d'écrire qui il est, d'écrire son parcours.
Well, first of all, the narratives
bien,
that are present
for us commencer, very often are not written by les récits que nous connaissons sont souvent écrits par les personnes réduites en esclavage elles-mêmes.
And James makes a point of he makes a distinction.
James fait la distinction entre les récits qui sont racontés par quelqu'un d'autre et ceux qui sont écrit par la personne elle-même. Parce que le récit qui a été rapporté par quelqu'un d'autre, ce qui était en réalité le cas général, signifie qu'il y a une, qu'il est influencé. Et cette influence est en général teintée du racisme qui est présent dans la tête de la personne qui transcrit le récit.
Il y a une chose intéressante.
Il y a quelque chose d'intéressant dans les années 30. Le projet d'écriture de Franklin Roosevelt, dans le cas du New Deal, il a envoyé des écrivains, des ethnographes, pour justement rassembler des témoignages des Américains. Et il y a des enregistrements de personnes qui étaient assez âgées à l'époque et qui avaient été esclaves par le passé. Ce qui est très intéressant dans ces enregistrements-là, c'est qu'ils parlent tout à fait comme moi. Comme je vous parle aujourd'hui. Par contre, il y a eu des transcriptions de ces entretiens qui sont écrits dans le dialecte prêté aux esclaves que l'on voit dans mon roman. Donc la question c'est, d'où vient le racisme ? Est-ce que ce sont les personnes qui ont fait les transcriptions de ces témoignages ? Est-ce qu'on leur a donné l'ordre d'écrire dans ce dialecte-là qui ne représente pas comment ces personnes parlaient en réalité ? Ou est-ce que le racisme est tellement profondément enraciné que malgré la façon de parler des gens, ils entendent autre chose ?
À ce propos, on va entendre un extrait de votre roman. On est dans la communauté autour de James, cette communauté d'esclaves, et c'est un cours de langue.
Ce soir-là, je m'installais dans notre cabane avec Lizzie et 6 autres enfants pour leur donner un cours de langue. C'était indispensable. De la maîtrise de la langue, de l'aisance à parler, dépendait la capacité à se mouvoir dans le monde en sécurité. Les petits étaient assis sur le sol de terre battue et moi sur l'un des 2 tabourets que j'avais bricolés. Le trou pratiqué dans le toit aspirait la fumée du feu qui brûlait au milieu de la cabane. « Papa, pourquoi on doit apprendre ça ?» Les blancs s'attendent à ce que nos paroles sonnent d'une certaine façon et forcément, mieux vaut ne pas les décevoir. Quand ils se sentent inférieurs, nous sommes les seuls à souffrir. Peut-être devrais-je dire « quand ils ne se sentent pas supérieurs ». Donc, prenons un moment pour réviser les bases. Ne jamais croiser leur regard, dit un petit garçon. Tout à fait, Virgile. Ne jamais parler en premier, dit une petite fille. Exact, Février. Lizzie jeta un coup d'œil aux autres enfants, puis se retourna vers moi. Ne jamais aborder un sujet directement quand on parle à un autre esclave. Et comment nomme-t-on cela ? Demandai-je. Ils répondirent en chœur : double discours. Excellent. Ils étaient contents d'eux. Et je les laissais savourer ce sentiment.
Percival Everett, comment avez-vous eu l'idée de cette particulière classe où des enfants esclaves, des enfants d'esclaves, apprennent à manier le plus parfaitement possible le double discours ?
I don't know, it just came to me.
Je ne sais pas, ça m'est venu, tout simplement.
I think it's certainly
je crois que,
true that any oppressed, enslaved, or
il est vrai que pour les personnes opprimées ou réduites en esclavage, ces personnes souvent développent une langue qui leur permet de communiquer sans que leurs ennemis les comprennent.
Whether they sound the way my characters sound,
que ce soit une langue qui ressemble à celle que je prête à mes personnages, ça, ce n'est pas quelque chose que je peux dire.
But in my novel,
mais en tout cas dans mon roman,
their language tends to be,
leur langue
and clear
est assez directe, assez claire.
What we might call standard English.
But c'est de l'anglais qu'on appellerait peut-être standard.
I wouldn't argue that
mais je ne peux pas évidemment affirmer que c'est comme ça qu'ils se parlaient.
The point, of course, is that
l'idée, bien
they
sûr,
have a language that they
c'est
use
de montrer qu'ils ont une langue qu'ils utilisent entre eux
and have to speak a certain way
et qu'ils doivent parler d'une autre façon pour rester en sécurité et pour satisfaire les personnes qui les réduisent à leur état.
L'extrait qu'on vient de lire ici dans la traduction de Anne-Laure Tissu montre aussi la permanence, comment on pourrait dire, double danse dans laquelle vous avancez, Percival Everett. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une immense cruauté dans cette classe où il faut apprendre une langue pour se montrer inférieur face aux Blancs, mais il y a aussi une façon de faire classe de moquerie. C'est-à-dire que c'est aussi une façon pour les enfants et pour les familles esclaves de ensemble faire corps pour tous ensemble se moquer des Blancs. Et il y a quelque chose qui sous-tend l'humour de ce texte James, qui est toujours très ambivalent, Percival Everett. Comment est-ce que vous avez travaillé cette dimension-là ?
Le monde est comme ça, c'est tout simplement une vérité. Et c'est ça qui est ironique dans le racisme.
The depiction of slaves throughout
les la façon dont on présente les esclaves dans notre littérature ou dans le cinéma, c'est on montre souvent des esclaves superstitieux et simples d'esprit.
And of course, that's not true.
Bien sûr, ce n'est pas vrai.
Regardless of how they spoke to each other,
peu importe la manière dont ils se parlaient, la majorité d'entre eux
étaient
capables d'envisager la complexité de la vie comme n'importe qui d'autre. Mais les portraits qu'on fait des esclaves ne montrent jamais ça. C'était aussi un des aspects que j'avais envie de traiter, même si ce n'était pas une intention au départ.
Je pense qu'à ce compte-là, c'est important qu'on parle d'une séquence qui met en scène les Minstrel Show. On va y venir en entendant un nouvel extrait de votre roman, Percival et Vettre, James. Mais peut-être dire un mot sur la manière dont vous travaillez les représentations. C'est-à-dire que vous venez de le dire, la manière dont les esclaves sont représentés dans nos arts, qu'il s'agisse de cinéma, qu'il s'agisse de littérature ou en chanson, est comme une façon de... Ça nous renseigne sur l'épaisseur des représentations. Je vais essayer d'être claire. La représentation qui nous arrive est souvent la traduction de plusieurs couches de représentation dont on ignore souvent, en tout cas dont les dominants ignorent souvent, qu'il y a dans cette couche-là une couche qui les moque. Je ne sais pas si vous me comprenez, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si le résultat de la représentation finale, qui devient la représentation dominante, ignore qu'elle est elle-même le produit d'une intelligence des minorés, d'une intelligence des exploités, d'une intelligence d'humour des exploités.
Well, of course, that's the idiocy of racism.
Bien sûr, encore une fois, c'est la bêtise du racisme. Cette idée qu'on est supérieur à n'importe qui d'autre, c'est presque une façon de reconnaître sa propre infériorité.
On écoute un extrait de votre texte, James, où il est justement question de ces spectacles, et puis on en parlera après.
Norman jeta un coup d'œil autour de lui. La nouvelle mode, c'est que des blancs se griment et se moquent de nous pour se distraire. Ils chantent nos chansons, certaines d'entre elles. Ils en écrivent aussi, dont ils se figurent qu'on pourrait vouloir les chanter. C'est étrange, mais ce n'est pas le pire. Alors qu'est-ce qui est le pire? Je ferais bien de commencer à t'appliquer ça sur la figure, dit-il en me montrant la boîte de cirage. Je me figeais, regardant droit devant moi. Prêt? J'acquiesçais d'un signe de tête. Norman me coinça une serviette tout autour du col. Évitons d'en mettre sur ta chemise. Il m'étala le noir sur le front. Il danse même le cakewalk. Mais c'est notre façon de nous moquer d'eux. Oui, mais ils ne le comprennent pas. Ça leur échappe complètement. Il ne leur est jamais venu à l'idée qu'on pourrait trouver en eux matière à rire. Double ironie, dis-je. Une ironie peut-elle oblitérer l'autre? Peuvent-elles s'annuler l'une l'autre? Norman haussa les épaules. Je sais que ce truc donne une sensation de frais, mais ça ne va pas durer. Surtout quand on sera sur scène à chanter. Tu es chanteur? Il m'appliqua le cirage sous le menton. Je joue du tambour. Pourquoi? Que fais-tu avec eux? Je veux de l'argent. J'en ai besoin. Je veux retourner en Virginie acheter ma femme. Et il ne se doute de rien? De quoi pourrait-il se douter? Tu crois qu'il y en a un qui va se réveiller un beau matin et dire « Hey, tu ressembles à un nègre ?» Non. Il recula pour examiner son travail sur mon visage. « Ils vont me payer ?» demandai-je. Aucune idée. Emmett n'a jamais fait ça avant. Aucun de ces hommes ne possède d'esclaves, mais ils ne pensent pas qu'on soit comme eux. Je vois. « Est-ce qu'ils ont déjà eu un noir dans la troupe et en le sachant ?» demandai-je en scrutant le campement. Non, tu es le premier.
I came to town the other night just to hear the noise and see the fight. The watchmen are running all around crying, old Dan Tucker done come to town. So get out of the way for old Dan Tucker. He's too late to come to
supper. Supper's over and dinner's a-cookin'. Old Dan Tucker just standin'. Now, old Dan Tucker was a nice old man. He used to drive our Darby Ran. He sent it whizzin' down the hill. If he hadn't got up, he'd have been there still. So get out of the way for old Dan Tucker. He's too late to come to supper. Supper's over and dinner's a-cookin'. Old Dan Tucker just standin'. Old Dan Tucker and I got drunk. Fell in the fire and kicked up a chunk. Fire cold got inside of his shoe. Lord bless you, honey, how the ashes flew. So get out of the way for old Dan Tucker. He's too late to come to supper. Supper's over and dinner's a-cookin'. Old Dan Tucker just standin' a-lookin'.
Les chansons sont extrêmement importantes dans votre roman James Percival Everett. Ici, on entend Old Dan Tucker par Gold Gate Quartet, qui est un groupe enregistré par Alan Lomax, qui reprend le répertoire de ses chants produits dans les Minstrel Shows. Les Minstrel Shows, c'est un épisode extrêmement important de James, qui fonctionne vraiment par succession d'aventures, presque par tableau. Moi, j'ai vraiment l'impression aussi d'une succession de tableaux dans votre roman Percival Everett. Est-ce que vous voulez bien nous dire ce que sont d'abord les Minstrel Shows et d'autres? Pourquoi est-ce que d'une certaine manière ces spectacles-là contiennent en eux-mêmes tout ce processus de double ironie que vous creusez avec votre roman James?
Bien, le groupe que je décris dans le roman s'appelle les Virginia Minstrels. C'est un groupe qui est fondé par Daniel Emmett, qui est en fait un personnage historique qui a existé. Les Minstrels, c'est quelque chose qui, au départ, a commencé avec des musiciens blancs qui se déguisaient en noirs pour se moquer des noirs. Et c'était censé être divertissant pour le public blanc.
Daniel Emmett is credited for having written the song Dixie.
A écrit par exemple la chanson Dixie, en tout cas lui est attribué.
Was a battle hymn of the Confederacy during the Civil War.
C'est une bataille de la guerre de sécession gagnée par les confédérés et l'ironie là-dedans, c'est que Emmett venait du Nord.
Didn't like his song being used in this way.
Et il n'aimait pas d'ailleurs que cette chanson soit interprétée de cette façon.
The Union Army and the
et donc ensuite il a écrit pour l'armée de l'Union pendant la guerre de sécession.
But he made a living.
Mais il gagnait sa vie en se moquant des Noirs.
Irony in all of that.
Ce qu'il y a d'ironie dans toute cette histoire,
much of the behavior and
c'est que
they mimicked,
la plupart des comportements, des attitudes qu'ils imitaient, la musique qu'ils imitaient.
Particularly the cakewalk.
En particulier la danse qu'on appelle le cakewalk
était
en réalité le moyen des esclaves de se moquer des propriétaires d'esclaves. Ils dansaient ces danses pour se moquer des blancs. Donc en fait, ils rejouaient des danses alors qu'ils se moquaient en réalité d'eux-mêmes.
Ils ignoraient qu'ils étaient, et c'est ça que met à jour ce dialogue qu'on vient d'entendre dans l'extrait de James, ils ignoraient qu'ils étaient sur scène en train de performer un spectacle qui finalement se moquait d'eux-mêmes. Et vous redoublez encore l'ironie, Percival Everett, lorsqu'on arrive à la situation ubuesque d'un homme noir qui se fait passer pour un homme blanc, qui se fait passer pour un homme noir, avec tout l'usage du maquillage. On a l'impression que vous allez de plus en plus loin, James avançant, dans la mise à jour de l'extraordinaire bêtise qu'est le racisme et l'établissement d'une inégalité entre des personnes qui n'ont pas la même couleur de peau. Je pense que tous ces gens-là étaient des mercenaires.
Obviously, in my novel,
dans mon roman,
there are layers of irony.
Il y a des couches, évidemment, d'ironie.
Otherwise, it would simply be uninteresting.
Sinon, ce ne serait pas très intéressant.
And it's funny, the obsession.
Et c'est vrai que c'est amusant, cette obsession.
And it's something that persists throughout American history. And
quelque chose qui persiste d'ailleurs dans toute l'histoire américaine, dans toute l'histoire occidentale.
A fetishization of
une forme
of American,
de fétichisme de la culture africaine-américaine.
The mimicking of African-American music,
cette façon d'imiter la musique africaine, par exemple, africaine-américaine, l'influence qu'elle a pu avoir sur la culture pop. C'est quelque chose d'assez étrange. Les gens étaient victimes de la législation Jim Crow. dans les années 50, 60, et dans le même temps, il y avait des blancs qui se prenaient pour des noirs et qui chantaient du blues. Et qui faisait du rhythm and blues.
From music to handshakes.
Que ce soit dans la musique, dans la façon de se saluer, les poignées de main,
and even now
on imitait.
Hip-hop.
Et même encore aujourd'hui avec le hip-hop.
One is hard pressed to find a real explanation for this.
Et c'est difficile de trouver une véritable explication à ça.
Il y a quelque chose, sans dévoiler trop peut-être l'intrigue, ce qu'il va se passer entre James et Huck, ce petit garçon. Mais de fait, vous décidez, dans le dialogue avec le roman de Mark Twain, de mettre en scène une relation entre un enfant et un adulte. Cet adulte-là, il est par ailleurs inquiété de ne plus revoir sa femme et son enfant. Et la question du lien entre un humain et ses enfants, pour dire les choses de manière la plus générique possible, Percival Everett, est centrale dans, on va dire, l'urgence à se libérer. Et peut-être je voudrais que, on pense notamment par exemple à la manière dont Toni Morrison a écrit avec Beloved l'enjeu qu'il y avait de pouvoir dire qu'un enfant est le sien, pour une femme esclave. J'aimerais bien que vous nous disiez la place qu'a occupée, j'essaye de le dire sans rien dévoiler, la question filiale dans l'écriture de James.
Even in Twain's novel,
même dans le roman de Twain,
one of the few, if not the only, male the positive male role models,
des seuls modèles masculins positifs, c'est Jim.
Perhaps remotely Judge Thatcher.
Peut-être le juge Thatcher, dans une moindre mesure, mais tous les autres hommes blancs sont des menaces pour Huck. Il y a une relation symbiotique assez bizarre entre Culberry et Jim.
Jim
protège Huck dans le paysage dans lequel il s'aventure, dans ce milieu.
Jim's safe passage through it is dependent on being with
Jim
Huck.
Dépend de la présence de Huck, parce que sans un blanc à côté de lui, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas exister. La seule raison pour laquelle il serait seul, ce serait parce que justement il est un fugitif.
Si je posais une autre question, j'en dévoilerais trop. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, Percival Everett. Je vais m'arrêter là. Le book club continue. Et à cette heure-ci, dans le book club, puisque selon vous, Percival Everett, il n'y a rien de plus subversif que de se réunir pour parler de ce qu'on écrit, à cette heure-ci, on partage des initiatives, des événements, des festivals, des ateliers en lien avec la lecture, les livres ou l'écrit. Et aujourd'hui, on vous signale un atelier d'écriture qui a lieu tous les premiers vendredis du mois, de 14h à 16h30, toute l'année, dans la commune de La Chapelle-du-Bois-des-Faux. C'est en Normandie, à 10 km au nord de Évreux. L'atelier est animé par David Artero, qui est auteur de romans fantastiques et d'épouvante, et c'est organisé sous l'égide de l'Agence de coopération des métiers du livre en Normandie. Et voici la présentation qui est faite de l'atelier sur un réseau social. Je cite « Si vous aimez écrire, si vous aimez jouer avec les mots et faire travailler votre imagination, notre atelier d'écriture va vous convenir. N'hésitez pas à nous contacter. » Donc nous, on se fait le relais de cette proposition. Les ateliers sont gratuits, sont ouverts à toutes et à tous, et vous trouverez les modalités d'inscription sur le site de l'émission Le Book Club. Je dis aussi que si vous voulez nous écrire à nous, ou bien pour converser autour des émissions, ou bien pour nous transmettre des idées d'événements ou d'ateliers que vous voudriez qu'on annonce, notre adresse est la suivante, lebookclub@radiofrance.com. On est toujours ravis de vous lire.
France Culture, Le Book Club, Marie Richeux.
À cette heure-ci, dans le book club de France Culture, Percival Everett, on joue avec nos auditeurs et auditrices à chercher de la musique dans les livres. Ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. On leur suggère, quand ils lisent des livres, n'importe quel livre, d'être attentifs à des évocations musicales et à nous les envoyer donc à l'adresse mail ou via le compte Instagram. Est-ce que vous pourriez, avant qu'on se quitte avec un extrait de votre livre, parce que dans votre livre, on a trouvé plein de musique, donc on a pu jouer nous-mêmes. Est-ce que vous pourriez dire la place que vous lui avez réservée à la musique ou la place réservée à la forme même de la chanson que vous reproduisez dans l'édition de votre roman, James?
Well, In the beginning of the novel,
bien, au début du roman, il y a des paroles de chansons.
And those are songs ostensibly of Daniel Emmett.
Ce sont des chansons, des paroles qui sont inspirées de Daniel Emmett.
The book that you're reading,
parce que le livre que vous lisez,
is written in Daniel Emmett's
est
notebook.
Écrit dans le carnet de Daniel Emmett.
The songs are examples of the racist
depiction. Ces chansons sont des exemples de justement ces textes racistes qui étaient les chansons des minstrel shows.
And they underscore the stereotypes and
ce sont des chansons qui montrent bien les stéréotypes.
That white Americans
et la façon dont les Américains blancs choisissaient de voir les Noirs.
Et ça n'est pas anodin, finalement, Percival Everett, de trouver l'histoire écrite par la main même de James dans l'interstice, dans le papier blanc laissé dans ce carnet de chansons racistes. Là encore, ce sont des représentations qui viennent prendre la place ou le sous-sol d'autres représentations dans un palimpseste dont vous semblez avoir le goût. On se quitte avec un extrait de votre roman. C'était le milieu de la matinée et j'étais toujours au travail sur le premier fer. Willie entra dans l'écurie et me regarda. « Alors comment il s'en sort ?» demanda-t-il à Pac. « Il n'est pas trop mauvais, lui, dit Pac. » J'étais trempée de sueur. Étonnamment, j'avais la sensation de subir un nettoyage en profondeur. Je martelais l'acier, trouvant le rythme que Pac m'avait enseigné. « Chante pour moi, fit Willie. » Je regardai Pac. Le vieil homme hocha la tête et se mit à chanter. Vas-tu sonner, vieux marteau ? Sonne, marteau. Vas-tu sonner, vieux marteau ? Sonne, marteau. Willie se tourna vers moi et je me joignis à Pac. J'ai cassé le manche du marteau. Sonne, marteau. J'ai cassé le manche du marteau. Sonne, marteau. J'avais beau détester l'idée de chanter pour Willie, le chant rendait la tâche moins pénible et j'aimais le son de nos voix renvoyées par les murs de l'écurie. Je me pris à chanter avec plus de force, jetant des coups d'œil à Pac et trouvant la chanson plus plaisante du fait de l'ironie partagée. C'est dans la Bible que je me suis mise à jouer du marteau. Sonne, marteau. C'est dans la Bible que je me suis mise à jouer du marteau. Sonne, marteau.
Oh, don't you hear my hammer ring?
You hammer ring.
Oh, don't you hear my hammer ring?
Oh, did you hammer ring?
I said I'm ringing in the bar.
Oh, did you hammer ring?
I said I'm ringing in the bar.
Oh, did you hammer ring?
I said I'm ringing for the cow.
Oh, did you hammer ring?
I said I'm ringing for the saw.
Oh, did you hammer ring?
I said I'm ringing for the steerer.
Hammer ring.
Well, and I'm ringing for the corner.
Hammer ring.
I believe it rang for everybody.
You hammer ring.
I believe it rang for everybody.
Well, that's your hammer ring.
I'm gonna tell you about my hammer.
Well, that's your hammer ring.
I'm gonna tell you about a hammer.
Well, that's your hammer ring.
Merci beaucoup, Percival Everett, d'avoir été avec nous pour évoquer votre roman James, qui sort dans la traduction depuis l'anglais vers le français par Anne-Laure Tissu aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup, Marguerite Capelle, d'avoir assuré l'interprétariat aujourd'hui. C'était comme d'habitude, un plaisir, si on remet toutes les lettres à l'endroit. Au son aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, spécialement aujourd'hui Mathilde Wagman. Vous pouvez poursuivre la conversation via le compte Instagram du Book Club. Et puis on adresse une salutation et un merci à Laure Murat qui nous a tellement donné envie de vous lire, Percival Everett.